Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue et termine sa série sur les métiers de la justice en s'intéressant aujourd'hui à l'avocat en compagnie de Julien Mintowski et Stéphane de Navassel. Qu'y a-t-il de plus noble que de défendre quelqu'un aux prises avec la justice, quelqu'un qui risque sa liberté? L'avocat continue de remplir aujourd'hui cette mission qui est le cœur de son métier, mais il fait bien d'autres choses tout aussi nécessaires et intéressantes. C'est pourquoi cette troisième et dernière émission de la série consacrée au métier de la justice se penchera sur toutes les facettes de ce métier, à la fois très ancien et en pleine transformation. Et c'est pour ça que j'ai choisi de réunir cet après-midi deux avocats qui représentent l'avenir du barreau, son rajeunissement et ses nouveaux enjeux, en la personne de Julien Mintowski, qui est avocate au barreau de Paris, auteur d'un ouvrage intitulé « L'avocat était une femme, le procès de leur vie » avec Lisa Vignoli aux éditions Lattès en 2021, et Stéphane de Navassel, avocat au barreau de Paris et New York. Bonjour Julien Mintowski, bonjour Stéphane de Navassel.
Bonjour Antoine Garapon.
Alors, je commence par vous, Julien Mintowski. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous avez cette particularité d'être une avocate pénaliste, c'est-à-dire de traiter de dossiers, parfois de gros dossiers, mais aussi de petits dossiers, qui mettent en cause des délinquants, qui sont souvent des hommes d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre parcours? Comment est-ce que vous êtes devenue avocate?
Depuis que je suis toute petite, alors qu'il n'y a aucun avocat de près ou de loin dans ma famille ou dans l'entourage familial, les amis, etc., j'ai voulu exercer ce métier. J'y suis vraiment venue par le romanesque. Depuis que je suis toute petite, ma mère est une grande lectrice. Elle m'a vraiment donné le goût de la lecture et c'est une grande lectrice notamment de romans policiers. Et donc j'ai commencé très tôt avec Agatha Christie, Ruth Rendell, Elizabeth George, Mary Higgins Clark, et puis plus tard les Scandinaves comme Camilla Läckberg. Enfin, ça m'a toujours suivie.
Mais il y a beaucoup de gens qui lisent des polars, mais ils ne deviennent pas avocats pour autant.
Oui, et en tout cas, moi, j'ai eu donc cette attirance pour les faits divers, les enquêtes. Et je pense que ce sont dans les films que le personnage de l'avocat m'a attirée, et notamment à travers des films comme Le Mystère von Bülow, qui est un film que j'adorais, où apparaît cet avocat américain, Alan Dershowitz, oui, très connu, qui défend le baron von Bülow, qui est prof à Harvard, et qu'on voit avec tous ses étudiants étudier le dossier, essayer de chercher la moindre faille, etc., dans des dossiers très volumineux. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de devenir avocat.
Alors, On va reparler d'avocats américains, mais c'est, je comprends ce que vous dites, que vous regardez des films et des films américains, parce que en France, l'image de l'avocat n'est pas aussi bonne. L'avocat est quand même quelqu'un qui est plutôt duplice, qui apparaît souvent alcoolique, qui vont comme les inconnus dans la maison, qui est c'est pas la même image. C'est l'avocat américain qui vous a amené à la justice en France.
Oui, ce que vous dites est assez exact. De façon générale, c'est vrai qu'il y a assez peu de beaux films de procès en France. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à filmer, alors que le procès d'assises français a quand même une intensité dramatique importante. Et c'est vrai qu'à de rares exceptions près, on n'a pas encore su saisir ce moment, cet instant. Je me suis souvent posé la question, j'en discute avec plein de gens, on a un peu de mal à définir la raison pour laquelle les procès sont si mal rendus dans la fiction française.
C'est ça. Alors ça se change un peu avec les séries, mais il n'y a pas, disons, cette figure rédemptrice de l'avocat américain, Stéphane de Navassel, que vous connaissez bien, cette figure rédemptrice qui sauve finalement l'Amérique de sa solitude.
Oui, merci. Merci Antoine Garapon. Moi, c'est mon parcours d'avoir commencé d'abord comme avocat américain et prêté serment à New York avant d'arriver à Paris. Et c'est amusant qu'on commence notre échange sur le côté, la façon dont la profession est relatée dans les films ou les séries. Parce que quand j'ai commencé ma première collaboration à New York, C'était dans un petit cabinet qui correspond à un cabinet de pénalistes comme nous pouvons les avoir en France, dans la défense des dirigeants mis en cause par les autorités de poursuite fédérales ou étatiques aux États-Unis, et avec tout ce qu'on peut voir effectivement dans les séries télé américaines, qui étaient à l'époque traduites en français, une vraie justice pénale négociée. Je te donne ça, tu me donnes ça, mais si je concède ça, est-ce que tu t'engages à pas t'en servir contre moi, mais tu pourras t'en servir contre les autres. Et puis on fait des contrats de justice pénale, ce qui était tout à fait inexistant et inconcevable en France à l'époque.
Julien Minikowski, le rôle d'avocat pénaliste en France, il est plus en défense que de ce côté proactif de l'avocat aux États-Unis.
Bien sûr, pour utiliser des termes un peu techniques, et j'explique pas ça pour vous, vous connaissez par cœur, mais pour les gens qui nous écoutent, il y a deux façons d'aborder une procédure pénale. Il y a la façon accusatoire et la façon inquisitoire. C'est vrai qu'en France, le juge d'instruction est censé faire l'enquête à charge et à décharge, c'est-à-dire à la fois pour servir l'accusation et pour servir la défense, à la recherche de la vérité. Alors qu'aux États-Unis, l'enquête est menée exclusivement par le procureur, et le procureur, lui, cherche tous les moyens de preuve contre la personne qu'il a décidé d'inculper. Et ensuite, l'avocat a des moyens parfois considérables, ou en tout cas, c'est son rôle. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est aussi une justice de classe avec beaucoup d'inégalités. Mais l'avocat est en charge de nommer un investigateur qui va trouver les éléments à décharge pour le client. C'est vrai que le rôle de l'avocat français par rapport à ça est beaucoup plus limité, puisqu'on peut demander au juge d'instruction de procéder à des actes. Il va demander à des policiers d'aller vérifier tel ou tel point, parce qu'on leur a demandé. Mais c'est vrai que nous-mêmes, nous n'avons pas le pouvoir de faire cette enquête. C'est pour ça aussi que l'image est différente.
Bien sûr. Mais Julien Minkowski, puisqu'on commence à entrer dans le métier, dans un cabinet d'avocat, le rôle de l'avocat vis-à-vis d'un client, il faut convaincre les juges ou il faut convaincre le client?
Alors, parfois, il faut convaincre le client que la stratégie qui nous semble efficace sera la bonne. Il peut y avoir des divergences, et puis parfois des divergences telles que ça peut se terminer par un désaccord absolu qui fait qu'on ne peut pas aller défendre un client qui ne serait pas convaincu par la pertinence des arguments qu'on veut mettre en avant. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. L'idée, c'est justement de pouvoir lui démontrer comment est-ce qu'on pense que sa défense sera la plus efficace. La vérité, c'est quand même que la plupart des clients face à la justice sont dans un sentiment de désarroi et parfois de désespoir très fort. C'est vrai que la justice pénale, ça reste quelque chose de très violent, surtout quand il s'agit de personnes qui n'ont pas l'habitude. Moi, je fais beaucoup de pénal financier. Je défends des patrons, par exemple, ou des hommes politiques qui n'ont jamais été aux prises avec la justice et qui se retrouvent, en fait, placés en garde à vue.
Et qui ne pouvaient même pas imaginer qu'ils pourraient se retrouver un jour devant la justice pénale.
Exactement. Mais que ce soit eux ou d'autres personnes qui ont des casiers judiciaires vierges et qui n'ont jamais rien fait, vous pouvez prendre n'importe quoi. Hein. Un instituteur qui demain serait accusé d'agression sexuelle sur un enfant alors qu'il n'a jamais eu aucun antécédent. C'est vrai que ça fait peur de se retrouver comme ça à 6h du matin. Des gens sonnent chez vous, retournent tout votre appartement pour une perquisition, vous emmènent, vous passez 48 heures en garde à vue. On vous donne un avocat commis d'office parce qu'en général, vous en connaissez pas, vous passez devant un juge d'instruction qui peut vous placer en détention provisoire, vous arrivez en prison, il s'est passé 48 heures. Donc c'est vrai que on parle de la machine judiciaire, mais c'est assez juste, que c'est assez monstrueux en fait. Vous avez vraiment l'impression qu'un rouleau compresseur vous passe dessus. Et donc les clients qu'on a nous font quand même assez confiance, ne serait-ce que parce que nous avons l'habitude, nous avons les clés, nous avons le langage, on est là pour leur expliquer.
Vous retrouvez, Stéphane de Navacelles, dans cette description du pénal, notamment du pénal économique?
Tout à fait. Je pense que ce que Julien Minkowski vient de décrire, qui est la situation de désarroi ou d'angoisse d'un client ou d'un justiciable face à son juge, face à la machine judiciaire, comme elle le souligne. C'est la même chose que vous soyez capitaine d'industrie ou personne lambda dans la rue.
C'est peut-être même pire. Si vous... C'est peut-être même pire pour le capitaine d'industrie que pour le petit dealer du coin de la rue.
Je ne sais pas s'il y a une hiérarchie à mettre entre les deux, mais c'est quelque chose qui va vous détruire votre vie, votre statut social, votre capacité à gagner votre vie, à s'occuper de votre famille, à pourvoir à leurs besoins. J'ai l'exemple d'une cliente qui me vient en tête, dont on a considéré qu'elle a pu commettre des manquements. En tout cas, une autorité de poursuite étrangère a décidé de la poursuivre. Sur des problématiques financières qu'elle a fait pour le compte de la personne morale, et elle s'est retrouvée virée de son poste de trésorier de l'association des parents d'élèves de l'école de ses enfants. Ce qui n'a absolument rien à, enfin voilà, c'est ça peut être tout à fait déroutant en termes de conséquences.
Oui, c'est ça. Oui, allez-y.
Peut-être une chose à ajouter sur le rôle de l'avocat et la confiance qu'on peut avoir avec son client. Je crois que ça a été très très bien expliqué par Julien Minkowski. Le métier d'avocat, ce qui est formidable et à la fois déroutant, c'est que si on veut pouvoir défendre, il faut connaître. Et donc on passe d'un métier à l'autre. On est en matière du pénal lié à la vie des affaires, on est avionneur, on est banquier, on est industriel, et on passe de l'un à l'autre. Et pour pouvoir défendre, il faut connaître. Et quand on commence à connaître, et finalement quand on finit par aimer un peu, et donc on va naturellement vers la défense.
Ça veut dire quoi?
Vraiment un peu ce rythme-là.
Ça veut dire quoi, Stéphane Lavassel, qu'on commence à aimer un peu?
C'est difficile de défendre sans avoir une forme d'indulgence pour la personne qu'on va défendre. Dans l'encyclopédie de Diderot, l'encyclopédie des métiers, il n'y a pas le métier d'avocat. Ouais. Mais ce qui s'y rapproche le plus, c'est le métier de médiateur.
C'est ça.
Et quelque part, je crois que c'est inviter la personne avec qui vous échangez, que ce soit le procureur, que ce soit le magistrat instructeur, que ce soit l'enquêteur, même si là on a un rôle moindre, c'est d'essayer de montrer que finalement la position de son client, elle s'explique, elle peut être mise en contexte, enfin voilà, ainsi de suite.
C'est ça.
Donc c'est un peu ce métier-là, ce métier de médiateur. Dans la même encyclopédie de Diderot, l'exemple qu'il prend, c'est celui de Moïse. Oui. Il dit voilà, le médiateur entre Dieu et le peuple juif, citant notamment l'Exode.
C'est ça.
Où il est, en fait, Moïse est un défenseur en permanence de
Julien Minkowski. Vous retrouvez dans cette description de l'avocat comme un médiateur et qui a besoin d'avoir une certaine empathie, une certaine indulgence, d'aimer son client dans le sens professionnel du terme, pour faire partager ça ensuite à des juges et à des jurés.
Alors, je pense qu'il y a une grosse différence entre l'empathie et l'indulgence.
Oui, bien sûr, oui.
L'indulgence, ça, c'est certain. Et d'ailleurs, parfois, on en a presque trop. Et la déformation professionnelle des avocats pénalistes, ça, une grande avocate, Frédéric Beaulieu, qui fait partie de ces femmes dont j'ai dressé le portrait dans mon livre « L'avocat était une femme », explique très bien que, par exemple, quand elle rentrait chez elle et qu'elle disait à ses enfants « Mais c'est scandaleux, mon client a été condamné à 8 ans de prison », et ses enfants disaient « Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait ?»« Oh, bah, il a tué une petite vieille lors d'un cambriolage », et ses enfants lui disaient « Mais maman, enfin !» Et c'est vrai qu'on peut avoir cette déformation à force de trop d'indulgence, de trouver des excuses à tout le monde, mais c'est certain que on est obligé, quand on est avocat, d'être capable d'ouvrir son cœur aux failles de la personne humaine qu'on défend pour pouvoir porter cette parole d'indulgence. Après, l'empathie, pour moi, c'est encore autre chose. Et quant à l'amour qu'évoquait Stéphane, moi, je dois avouer, oui, voilà, que c'est excessif et qu'il y a même des clients qui m'exaspéraient et que j'ai réussi à défendre.
Voilà, alors c'est la question que j'allais vous poser, que je vous pose à tous les deux. Il y a parfois des gens qui sont détestables, y compris parmi les j'allais pas dire les délinquants, mais parmi les gens qui ont des problèmes avec la justice, Stéphane de Navassel, non?
Oui, c'est difficile pour moi, en tout cas, la façon dont j'appréhende les situations, de trouver mon client complètement détestable. Il faut bien que je lui trouve, il faut bien que je trouve quelque chose à défendre.
Voilà, bien sûr.
Mais parfois, c'est vrai qu'on y est contraint. Et on le fait quand même, il faut le faire quand même.
Ce que je dirais, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que quand je trouve le client absolument détestable, en général, il y a quelqu'un dans son entourage qui l'est beaucoup moins. Et c'est vrai que, parce qu'on vous dit toujours, évidemment, quand vous êtes avocat pénaliste, et la question la plus classique du monde, mais enfin, comment est-ce que vous faites pour défendre telle ou telle personne? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent, on est contacté par une mère, une sœur, un fils, enfin, quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, bah voilà, j'ai mon proche qui est en détention, qui a fait telle ou telle chose, qui est poursuivi. Et en fait, c'est cette personne-là qui vous touche et c'est pour cette personne-là aussi que vous avez cette empathie dont on parlait. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une certaine indulgence pour votre client et de le défendre efficacement, même s'il est lui-même détestable.
Mais notre maître à tout, je crois qu'on peut le dire, Henri Leclerc, qui est un modèle dans la défense pénale et dans l'avocature, il insiste beaucoup sur cette dimension de fusion, mais de très grande proximité avec son client pour pouvoir faire passer son humanité ou leur humanité ou au couple avocat accusé auprès des jurés. Et il dit, c'est ça que ça marche, Julien Mitkowski.
Oui, il a eu cette formule très belle qui est de dire, finalement, dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, l'avocat, il n'est peut-être pas dans l'Encyclopédie de Diderot, mais en tout cas, il est sur le fronton de tous nos bâtiments parce qu'il incarne la fraternité. Et quand on défend quelqu'un, en fait, on défend son frère parce qu'on défend un autre être humain, un être humain qui est comme vous et qui a eu ses failles, son parcours, enfin quelque chose qui explique qu'à un moment ou à un autre, il a basculé, il y a eu ce passage à l'acte. Et c'est votre frère qui l'a commis, quelle que soit la monstruosité de ce passage à l'acte. Votre frère, lui, n'est pas un monstre. Et c'est vrai que Henri Leclerc l'a expliqué d'une façon remarquable.
Magistral, absolument. Mais ça vous arrive de refuser des clients, Stéphane de Navassel? Refuser des clients, je veux dire, sur une base de dire non, celui-là, je ne peux pas le défendre.
Non, ça ne m'est jamais arrivé. En revanche, des clients peuvent me refuser. et c'est ce que Julien Mitkowski disait tout à l'heure, en disant, parfois, on arrive à un point de désaccord où ce n'est pas possible. Il m'est arrivé que des clients veuillent défendre une position qui ne tient pas la route. Ou qui serait parfaitement mensongère et qui mènerait à une situation où l'avocat auxiliaire de justice serait discrédité complètement et amené à induire en erreur ce qui est un magistrat par exemple, ce qui est interdit par notre déontologie. Il faut une cohérence minimale à défaut d'amour entre le client et son avocat. Donc ça m'est arrivé. Je dis, écoutez, voilà ce qu'il faut faire, et on me dit, non, moi je veux faire ça, il faut que vous disiez ça, ou je veux que le résultat de vos travaux soit X. Non.
C'est ça, être un médiateur, c'est être entre les uns et les autres, c'est d'être un interface, c'est d'être un intercesseur, c'est d'être, alors, autre expression d'Henri Leclerc, un supplicateur de justice, c'est-à-dire quelqu'un qui met toute son énergie, et il faut avoir cet accord. Et j'imagine que vous aussi, Julien Mitkowski, il y a eu des désaccords, vous nous l'avez dit, entre des clients et vous.
Oui, mais c'est plutôt rare de toute façon, en tout cas, ce qui est certain, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est que moi, en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse dire à l'avance « je ne défendrai jamais un pédophile, par exemple. » Voilà, c'est le crime le plus monstrueux, etc. Mais on ne sait jamais à l'avance ce qui fera que vous serez capable ou pas de défendre quelqu'un qui a commis tel acte. Vous pouvez aussi avoir des raisons toutes personnelles, parce qu'un drame est arrivé autour de vous qui fera que vous ne pourrez pas défendre telle ou telle personne qui aura commis tel ou tel acte. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de généralité.
Alors, Stéphane Navassel a prononcé le mot, pas fatidique, mais le mot qui aujourd'hui est pas problématique, mais qui, disons, de, demande à être peut-être réinterprété le terme d'auxiliaire de justice. Alors les avocats, ils aiment pas tellement le terme d'auxiliaire de justice, parce qu'ils se disent auxiliaire de quoi ? Moi, je suis pas auxiliaire. Julia Minkoff.
J'ai un petit quai quand il dit ça, mais je pense que c'est le fait qu'il ait cette formation très, très, très anglo-saxonne. C'est vrai que la différence entre la France et les États-Unis, c'est que quand vous êtes avocat américain, vous avez une duty to the court, c'est-à-dire que vous avez vraiment un engagement légal par rapport à la cour et qu'effectivement, vous n'avez pas le droit de mentir. Alors que quand vous êtes avocat français, vous n'êtes pas du tout restreint par ce type de choses. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez une déontologie. Évidemment que même pénalement, vous n'aurez pas le droit de produire de faux documents, par exemple. Après, vous pouvez mentir tout autant que vous voulez, de la même façon que votre client lui-même ne prête pas serment avant de s'exprimer et qu'une personne qui est mise en accusation en France a le droit de mentir. Ce sont les témoins qui prêtent serment. Et encore, pas tous, puisque quand ils font partie de la famille, ils ne prêtent pas serment. Donc, les choses sont très différentes de ce point de vue. Après, moi, là où je rejoins Stéphane, c'est que, effectivement, j'essaye toujours de faire en sorte de ne pas avoir recours à des mensonges éhontés, puisque ce n'est pas ça, défendre. Mmh. Et en s'en tenant à la vérité, ou en tout cas à ce qu'on en connaît, on a toujours une façon de défendre quelqu'un et de défendre son innocence, même s'il y a une petite musique au fond de vous qui vous dit, bon, il a quand même pas l'air, mais ce qui est extrêmement rare en tout cas, c'est qu'un client arrive en disant, écoutez, je suis coupable, j'ai tué quelqu'un, en revanche, je demande l'acquittement. Ça, en fait, ça n'existe pas, parce que les clients viennent pas vous dire ça.
Vous confirmez cette différence, Stéphane de Navassel, avec entre les États-Unis et la France, différence de taille?
Oui, dans le sens où, effectivement, comme Julian Mikulski vient de l'expliquer, l'avocat américain est officer of the court, donc il doit à la cour, au tribunal, une loyauté. Chez nous, on est auxiliaire de justice, et la justice, c'est au-dessus de n'importe quel tribunal.
Et des juges.
Moi, c'est vraiment quelque chose de... Et des juges, bien sûr. Il y a peut-être une forme d'universalisme ou de transcendance là-dedans, j'en sais rien. Mais dans les règles françaises, elles ont été très bien reprises. Dans le code de déontologie européen, on a une interdiction d'induire en erreur un magistrat. Oui. Alors. C'est assez méconnu chez nous, mais ce qui est certain, et ça a été très...
Je vous laisse la responsabilité de ces propos.
Non, mais c'est que si vous racontez n'importe quoi, vous ne servez pas votre client. Vous allez vous décrédibiliser votre parole, et donc vous ne serez pas écouté sur le reste. C'est de mauvaise stratégie, et ça, on se rejoint tout à fait sur le sujet.
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Le vent nous portera. Esprit de justice qui continue de s'interroger et de découvrir les dilemmes de la profession d'avocat avec Stéphane de Navacelle et Julia Minkowski. Julia Minkowski qui a choisi cette chanson de Bernard Cantat, « Le vent l'emportera ». Bertrand. Julia Minkowski.
Oui, j'ai choisi cette chanson parce que Bertrand Cantat, donc, était le chanteur de ce groupe Noir Désir. Déjà, c'est une chanson que j'ai toujours beaucoup aimée, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune et que je continue à beaucoup apprécier. C'est une chanson qui est très poétique. C'est une chanson qui nous interroge parce qu'elle dit « Le vent l'emportera pour les affaires judiciaires et les personnes qui sont condamnées. Quand est-ce que le vent l'emportera ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un droit à l'oubli ou pas ? C'est une question qui est importante. Et puis aussi, parce que dans le livre que j'ai écrit « L'avocat était une femme », j'ai interrogé Céline Essec qui a été l'avocate de Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, je le dis pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était le chanteur de ce groupe et il a été condamné à Vilnius en Lituanie pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, enfin, en tout cas l'équivalent là-bas de cette infraction. Parce que il a eu une violente dispute avec Marie Trintignant, qui était une actrice très talentueuse, la fille de deux personnalités du cinéma français. Et ils ont eu cette violente dispute et elle est morte de la suite du coup qu'il lui a donné. Et Céline Lassec, qui était toute jeune avocate, est partie à Vilnius avec Olivier Metzner, qui était un grand ténor du barreau, qui n'est plus là aujourd'hui, puisqu'il a mis fin à ses jours il y a plusieurs années maintenant. Ils sont partis tous les deux à Vilnius et elle s'est trouvée, en tant que femme avocate, à devoir défendre cet homme. Qui a été responsable du décès de son grand amour. Elle a eu face à elle un homme qui ne voulait pas se défendre, qui acceptait, en tout cas c'est ce qu'elle raconte, pleinement la responsabilité de ses actes.
Par sentiment de culpabilité
et qui refusait absolument en fait d'être défendu. Et les avocats se sont retrouvés en fait face à une grande douleur. Et puis cette impossibilité en fait de trouver les moyens de se défendre puisqu'il ne voulait pas. Je trouvais que c'était intéressant de choisir ce morceau parce que ça montre comment être avocat, qu'on soit un homme ou une femme, bah voilà, on peut se retrouver dans des situations, justement, on peut être féministe et défendre ce type d'accusé, et on peut se retrouver comme ça 18 ans après, parce que maintenant c'est une affaire qui remonte, à pouvoir porter la parole de Céline Assec qui est venue expliquer ça, alors qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, là, cette chanson a été diffusée, mais que Bertrand Cantat ne peut pas faire de concert, qu'il y a eu toute une polémique quand il est apparu en couverture des Inrecuptibles, un magazine de musique. Et c'est aussi pour ça que Le Vent l'emportera, le droit à l'oubli, la différence ou pas qu'il peut y avoir entre l'homme et l'acte pour lequel il a été condamné, notamment pour les artistes, toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir autour de Polanski, etc. C'est vrai que cette affaire pose beaucoup de questions et que ce chapitre-là dans mon livre est vraiment un de ceux qui m'ont le plus ému.
C'est très intéressant aussi parce que ça veut dire que la loi n'appartient à personne, y compris elle n'appartient pas à celui qui a fauté. Entre les hommes, inter homines esse, entre les hommes, et entre les hommes il y a la loi, et c'est vrai pour tout le monde, personne ne peut, même par culpabilité, s'en extraire. Alors là on parle du pénal, le pénal que vous pratiquez, Stéphane de Navacelle, vous il est un peu différent, c'est du pénal où il y a rarement mort d'homme, en revanche il peut y avoir des conséquences sociales absolument terrible, c'est le droit pénal des affaires.
Oui, absolument, Antoine Garapon. Il y a une très grande évolution de cette pratique du droit pénal des affaires depuis quelques années, et notamment depuis l'introduction d'outils de compromission. De contractualisation,
c'est ça, voilà,
du droit pénal, de la procédure pénale. C'est un peu à dessein que j'ai utilisé ce mot-là, parce que c'est comme ça que nombreux en France notamment chez les magistrats, voit ces outils, qui est la transaction en matière pénale.
Mais il faut dire que Stéphane de Navacelles, ça veut dire que l'avocat la défend plus, mais il construit un contrat, il construit un arrangement entre la partie, les parties et la puissance publique et le procureur.
Voilà, et on met en avant, notamment dans le monde des affaires où les choses ne sont pas forcément aussi évidentes, où il y a des situations de contexte particulières, de zones grises, d'interprétation de la loi, ainsi de suite, qui ne vont pas être aussi évidentes et aussi faciles à prouver, il faut le dire. Que des situations de d'homicide volontaire ou pas, et on se rend bien compte, la France a été très critiquée des années durant sur l'absence d'efficacité de son système judiciaire. C'est-à-dire qu'en réalité, on avait toutes les lois qu'il fallait, notamment en matière de lutte contre la corruption, mais on n'avait pas de condamnation, on n'avait pas d'avancée significative, et donc on accepte une forme de compromission, c'est-à-dire de transiger. Où l'entreprise va, dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public, par exemple, reconnaître des faits, mais pas de qualification pénale, pas de condamnation pénale. Et donc, ça permet à tout le monde d'avancer. Et évidemment, le compromis fait qu'on va payer une amende tout à fait conséquente.
Julien Minkowski, c'est une nouvelle manière de pratiquer la défense. Ça, c'est tout à fait nouveau.
Oui, alors la CRPC, la sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Alors, ça veut dire quoi pour nos auditeurs? Expliquez-nous ce que c'est.
Alors, parce que là, je parle du pénal personne physique, comme Stéphane a bien expliqué pour les entreprises comment ça se passait. Quand vous êtes une personne poursuivie pour avoir commis un délit, aujourd'hui ça ne s'applique qu'au délit, vous pouvez, soit sur proposition du procureur, soit parce que l'avocat va se rapprocher du procureur, essayer de trouver un accord entre accusation et défense sur la peine adéquate. Et puis, si vous trouvez cet accord, vous allez devant un juge celui-ci examine s'il estime que cet accord est conforme à la justice, aux peines qui peuvent être prononcées par rapport au dossier qui existe, et homologue ou non.
Et dans cela, il n'y a pas de procès.
D'accord. Et donc, voilà, il n'y a pas de procès. Ça permet justement d'éviter cette épreuve du procès. Ça permet pour la justice aussi de gagner du temps, parce que finalement, si les faits sont reconnus, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en débattre, surtout si on arrive à trouver une peine qui paraît juste à tout le monde. Alors, c'est pas encore très développé, moi j'ai pas les chiffres en tête.
Vous le faites vous-même, vous?
Oui, ça arrive. Parfois même dans des affaires importantes, où les gens veulent à tout prix s'éviter en fait l'opprobre public du procès. Mais parfois, justement, du côté de la justice, ça coince parce qu'on ne voit pas pourquoi telle personne échapperait à un procès. Donc, c'est quand même pas encore très ancré. Et même si ça a été élargi à tous les délits, il reste encore un délit pour lequel c'est exclu, qui est l'homicide involontaire.
Bien sûr.
Parce que, justement, j'imagine que l'esprit, c'est de dire non, là, il y a eu un mort, même si la mort n'était pas volontaire, on exige encore un procès.
Mais... Stéphane de Navacelles nous disait à l'instant que on était un peu en retard en France. Est-ce qu'une des causes du retard, c'est pas un manque de communication entre les magistrats et les avocats, Julien Minkowski?
Moi, j'ai le sentiment que la société française a une espèce de besoin quand même de procès. Là, ce qu'on voit avec tout le débat autour de la mort de Sarah Halimi, par exemple.
Bien sûr.
Les infractions qui sont commises par des personnes atteintes d'un manquement de discernement, enfin par les fous, en fait. Doit-on juger ou non les fous? Ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a un débat autour de ça. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a pas de procès dans ces cas-là, et donc c'est vrai qu'il y a un appétit quand même de la société au procès. Donc c'est une des raisons, et puis ce que vous dites aussi, oui, le manque de communication entre magistrats et avocats, c'est vrai. Alors du côté des avocats, on va dénoncer par exemple à Paris que dans le nouveau tribunal, par exemple, tout a été fait pour qu'on ne puisse jamais croiser un magistrat, on ne passe pas par les mêmes couloirs. D'ailleurs, quand il y a eu la visite, on nous a expliqué, en fait c'est facile à comprendre que là, de la moquette, c'est pour les magistrats magistrats quand il y en a passé pour les avocats, et je n'exagère pas. Oui. Si vous voulez aller dans la galerie des juges d'instruction, vous devez passer par tout un tas de sas, et puis si vous frappez, on vous dit vous n'avez pas pris rendez-vous, c'est alors ça. Qu'avant, il était de coutume, à une certaine heure, vous pouviez aller dans la galerie, avant les interrogatoires, à 13h, parler avec les juges.
Vous êtes nostalgique, Julien Minkowski, vous êtes nostalgique d'une époque, et notamment de la buvette du palais, alors l'ancien palais de justice, la buvette où bon, les avocats pénalistes se retrouvaient, mais où ils fréquentaient aussi les magistrats. Et d'ailleurs, vous dites, moi, tout ce livre, l'avocat était une femme, c'est, je voudrais retrouver cette ambiance de la table des pénalistes. Vous pensez qu'il y a un défaut de lieu de socialisation entre magistrats et avocats?
Alors, une table des pénalistes recomposée.
Oui, ils sont recomposés.
Cette fois, il y aurait des femmes, ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, je suis à la fois nostalgique et puis pas tout à fait. Et puis, surtout nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu.
Voilà,
mais
toujours.
Comme toujours. Mais dont on m'a vanté les mérites. Et ça, vous avez tout à fait raison. C'était un lieu, manifestement, un lieu d'échange. Et ce lieu n'existe plus du tout.
Stéphane de Navacelle, vous avez cette double expérience. Il faudra nous dire un mot quand même, parce que on a pris pour argent comptant le fait que vous étiez avocat américain et français en même temps. Vous avez l'air bien français à vous entendre, mais il faudra que vous nous disiez un mot sur votre itinéraire. Mais les avocats et magistrats aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays, forment beaucoup plus une communauté professionnelle qu'en France.
Alors oui, absolument. Je voudrais revenir, si vous voulez bien, Anthony Raffon, sur une chose que vous avez dite tout à l'heure, sur le retard de la France. Je crois que ce que j'ai dit, c'est que on lui reprochait son absence d'efficacité de la justice. Est-ce que c'est une avancée? C'est sûrement beaucoup plus efficace sur le plan de la morale, de la recherche de la vérité, du contradictoire. Ces transactions en matière pénale sont très largement imparfaites.
Oui.
Et on a des dérives outre-Atlantique. Qui ont, eux, des années d'expérience, des décennies d'expérience dans le domaine, où en matière pénale, on en est à des taux de transactions qui sont largement au-dessus de 95%.
Oui.
Donc, c'est dramatique dans le sens où il n'y a plus de jurisprudence et le parquet a un pouvoir de négociation et on se rend compte qu'il y a notamment chez les populations les moins éduquées ainsi de suite des reconnaissances ou des acceptations de deals alors que avec grâce à l'ADN et grâce à tout un tas de travail d'ONG, on se rend compte qu'en fait ils n'avaient rien fait, que c'était pas eux.
Oui, non, mais ce que je voulais dire en termes de retard, j'ai pas une histoire d'avancée ou de retard, mais je regrette en tant que magistrat, de dire, je vais le confesser, une absence de, comment dirais-je, de confiance, parce que je pense que c'est quand même les avocats qui font le procès, même si le juge apporte majoritairement la preuve, et que un bon procès, c'est quand il y a des bons avocats et des bons juges qui se parlent entre eux, qui ont une confiance réciproque. Et malheureusement, je la vois malmenée en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, 100% d'accord.
Oui, oui.
Il faut vraiment... et d'ailleurs, vous avez et nous avons ensemble à l'ENM, au sein de l'IHEJ, ainsi de suite, œuvré dans ce sens. Et il y a de nombreuses initiatives salutaires. Mais on est très loin de ce qui se passe aux États-Unis, où le barreau, la grande profession du droit, comme on dit parfois, il n'y en a qu'une.
C'est ça.
Que vous soyez avocat au barreau, magistrat, juriste, procureur, vous êtes avocat.
Et notamment, on peut passer de l'un à l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien Minkowski, de cette grande profession du droit? Vous souhaiteriez, vous, qu'en France, il y ait plus d'une grande profession du droit et qu'on circule plus entre le barreau, la magistrature, l'université?
Je pense que ce serait effectivement très enrichissant. On en est tellement loin en France. Ce sont vraiment des professions qui sont devenues totalement incompatibles, des gens qui n'arrivent plus à se parler. Je grossis le trait, hein. Évidemment qu'il y a encore des magistrats aujourd'hui avec lesquels on a des très bons rapports, mais c'est vrai que même moi, en 15 ans de barreau, j'ai vu une évolution et qu'aujourd'hui, quand j'ai un magistrat qui m'appelle spontanément pour me faire part d'une difficulté sur l'organisation de l'audience ou d'une difficulté qu'il peut rencontrer dans le cadre d'une instruction, d'une perquisition qui a eu lieu, d'un téléphone qu'il faut restituer, etc. Je suis à chaque fois très étonnée, agréablement étonnée, mais très étonnée, puisque ça n'arrive quasiment plus jamais. Il est certain que si il y avait plus de circulation, qu'on peut constater aujourd'hui, les choses seraient certainement très différentes. Mais ça paraît totalement surréaliste, en fait, d'imaginer un procureur qui deviendrait avocat un juge d'instruction qui deviendrait avocat.
Ça arrive de plus en plus.
Ça arrive, mais c'est quand même l'exception.
Tout à fait.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic?
Esprit de justice qui continue de s'interroger sur la profession d'avocat en compagnie de Julia Minkowski et de Stéphane de Navassel. Stéphane de Navassel qui nous a proposé d'écouter Toxic, qui était une chanson de Britney Spears, mais qui était interprétée ici par Yaël Naïm. On a parlé de la profession d'avocat. Tous les deux, vous avez des responsabilités, soit au Conseil de l'Ordre, ou quelques années au Conseil de l'Ordre, soit le club des femmes pénalistes, des avocates pénalistes. Alors j'aimerais qu'on consacre la dernière partie de cette émission à l'avenir de la profession. Et je commencerai par vous, Stéphane de Navassel. On a l'impression, la profession évolue énormément, et elle évolue notamment avec beaucoup de nouveaux métiers. De nouveaux métiers autour de à mi-chemin entre le barreau, l'entreprise, avec des nouveaux enjeux comme la conformité. Qu'est-ce qu'il en est, Stéphane Navassel?
Merci Antoine Garfon. Absolument. C'est une évolution que moi je vis au quotidien et qui est pas le fait d'un développement d'une stratégie, mais qui est vraiment de l'accompagnement des clients, des entreprises. Il y avait toutes ces grandes enquêtes pénales internationales dans lesquelles j'ai pu participer dans les 15 dernières années, poussées par les autorités de poursuite françaises, américaines, la Banque mondiale, le SFO en Angleterre, ainsi de suite, notamment en matière de corruption, de blanchiment, de financement du terrorisme. Et tout ce qui est la manipulation des indices boursiers. Ça évolue. On veut faire de la prévention. On introduit les systèmes de conformité. La conformité, c'est quelque chose de très, très bizarre. C'est une forme de retournement de la charge de la preuve où l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place des systèmes de contrôle pour montrer que son fonctionnement interne est conforme à ce qui est attendu d'elle. Ce qui est attendu n'est plus défini par la loi, mais par
Vous disiez à l'instant, Stéphane Navassel, que vous avez cité des choses comme la corruption, le blanchiment, la lutte contre le terrorisme, mais on voit que ce qui est nouveau, c'est que désormais, les entreprises sont associées, c'est-à-dire que l'opposition, l'argent et les valeurs, elle est de moins en moins vraie. Aujourd'hui, pour lutter contre la corruption, au plus proche de la corruption, il faut occuper ces nouvelles fonctions.
Absolument. Oui. Et le métier de l'avocat, il évolue. Oui. Il évolue de la défense vers l'accompagnement des entreprises pour identifier les risques, justement, oui. Le risque pénal, les risques que je viens d'identifier. Et depuis quasiment un an et demi, on se retrouve en dehors de tout contentieux dans un sujet, par exemple, de fusion acquisition. Vous allez acheter une entreprise.
C'est ça.
Vous êtes une entreprise.
Et puis faire des enquêtes un peu comme une sorte de police. L'avocat se transforme en enquêteur. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau.
Alors ça, c'est aussi un nouveau rôle pour l'avocat, qui est de prévenir. L'entreprise peut être citoyenne aujourd'hui. Si vous prenez une grande entreprise comme Total, par exemple, si elle veut continuer à recruter des jeunes talents, elle va devoir s'assurer que les valeurs de l'entreprise correspondent. À celle des jeunes qui vont arriver. Donc elle va mettre en avant les problématiques de lutte contre le blanchiment, contre la corruption bien sûr, la défense de l'environnement et les droits humains dans leur ensemble.
Alors, avec les obligations Julien Minkowski,
allez-y.
Julien Minkowski, vous sentez cette évolution, cette diversification des rôles de l'avocat? On est parti de la défense, on a parlé de la négociation avec les juges. Là, on parle de beaucoup de nouveaux métiers. Vous sentez-vous dans le nouveau barreau, dans le jeune barreau, cette diversification?
Oui, c'est très particulier ce qui nous arrive parce qu'effectivement, il y a maintenant de plus en plus ce qu'on appelle des enquêtes internes, c'est-à-dire des faits qui sont dénoncés en interne. Par exemple, très souvent, là, moi, j'ai beaucoup de cas ces derniers mois de harcèlement moral au sein de l'entreprise, par exemple. Et donc, une entreprise fait appel à vous pour mener, pour assister la direction des ressources humaines dans l'enquête qui va être faite, entendre des salariés pour connaître leur grief contre une personne qui est accusée. Et c'est vrai qu'on se retrouve complètement à contre-emploi. Alors, on parlait tout à l'heure de la grande profession du droit. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas tellement été formés par rapport à ça. Je ne devrais pas dire ça, mes confrères me taperaient sur les doigts en disant « chut, il ne faut surtout pas dire qu'on n'est pas compétent pour
mais
ça ».
Mais en fait, mais
c'est vrai que c'est
bien,
à l'inverse de notre rôle. Et d'ailleurs, ce que le barreau a considéré récemment, que si vous avez mené l'enquête interne, bah après c'est terminé. C'est-à-dire que si votre société est poursuivie, bah vous ne pourrez pas vous-même la défendre. C'est vrai qu'il y a un moment où, là, on est dans un temps nouveau avec des pratiques anglo-saxonnes qui sont importées. Pourquoi ? Parce que les autorités aux États-Unis, en Angleterre, en fait, demandent aux entreprises de mener leurs enquêtes internes et ensuite de communiquer les résultats. En France, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en France, de façon un peu approximative, soit on fait les enquêtes pour les Américains, donc là c'est différent parce que tout est vraiment bien, on sait ce qui est attendu de nous, etc. Mais parfois on dit faites une enquête interne un peu à l'américaine, mais qu'est-ce qu'on va faire des résultats? On va aller appeler le procureur de la République en disant il y a un gros problème dans notre entreprise, venez nous poursuivre. On est vraiment là dans un moment charnière, les choses ne sont pas encore tout à fait bien organisées, à part pour les quelques infractions dont Stéphane parlait avec les transactions qui peuvent être faites et donc les enquêtes internes qui sont très encouragées et puis qui va donner une espèce de bonus à la fin quand on va décider de la sanction. Ah, vous avez fait une enquête interne, vous avez communiqué vous-même les conclusions, donc c'est un bonus, vous serez, parce que c'est une espèce de système à points, vous serez moins condamné. Mais c'est vrai qu'à part ça, nous parfois on a un peu tendance à dire oulala, attendez, vous êtes sûr que vous voulez faire l'enquête, qu'est-ce que vous allez faire des conclusions en fait?
Oui, mais ça veut dire que ce qu'on entend de l'un et l'autre, alors qu'on a parlé de l'avocat comme une figure qu'on voit toujours solitaire à l'audience, une robe noire qui se lève et qui proteste pour son client, on voit à quel point aujourd'hui la pratique de l'avocat, c'est une pratique collective. C'est nécessairement des cabinets avec des compétences de plus en plus diversifiées, Stéphane Navassel.
Absolument, il y a autant d'avocats qu'il y a de clients. C'est souvent ça que je dis quand on m'interroge, parce que finalement on va faire ça. Mais l'avocat avec la robe qui se lève et qui plaide et qui défend, Julien Koski le fait plus souvent que moi, mais nous le faisons aussi. Et finalement c'est aussi l'aboutissement de toute une préparation, de tout un travail en amont qui est pas forcément aussi photogénique. Mais il y a tout un tas de professions d'avocats, absolument.
Mais Julien Minkowski, revêtir sa robe noire et se lever en cour d'assises, qui est un moment particulier, ça reste quand même le cœur du métier, il ne faut jamais l'oublier.
Pour moi, oui, mais comme disait Stéphane, il y a autant d'avocats que de clients, que de personnes. Moi, c'est ça qui m'a donné envie d'être avocate. Et d'ailleurs, à la fac, on m'a fait faire beaucoup de droit des affaires. C'était dans les années 2000, c'était la grande période des fusions-acquisitions. Et puis, j'ai une double formation. Je suis allée à Sciences Po, en échange à Columbia. Donc, tout me dirigeait vers le droit des affaires. Mais ce n'était pas ça que je voulais faire. Quand j'étais petite, un jour, dans un restaurant, j'avais justement croisé une grande figure, Robert Badinter. Je savais absolument pas qui c'était. Il était là avec
la figure, avec une autre différente de celle d'Henri Leclerc. C'est la grande figure
mais
du barreau.
En tout cas, je voyais cet homme avec des cheveux blancs, des yeux très bleus, et qui était attablé avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de parler. Lui ne disait pas un mot, mais il y avait tout un tas de gens qui venaient le saluer. Et donc j'ai demandé à ma mère, mais enfin, pourquoi tout le monde vient voir ce monsieur qui sait ? Il avait une espèce de force tranquille. Elle me dit, c'est Robert Badinter, c'est le monsieur qui a fait abolir la peine de mort. Et ça m'a tellement fascinée que ça fait partie de tout ce parcours qui m'a amené à vouloir être avocate pénaliste, qu'à la toute fin de mes études et tous mes stages étant droit des affaires, ma maîtrise de droit des affaires, mon débat de droit privé, je me suis dit, mais je ne voulais pas être Jean-Michel Darrois, qui est la grande figure du barreau des affaires français. Quand j'étais petite, je voulais être Robert Badinter. Donc, il faut que j'aille faire un stage. Et là, je suis arrivée chez Hervé Temim. Et au bout de 3 heures, j'ai compris que j'étais à ma place, et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix, même si on m'a beaucoup découragée au départ. C'est pas un métier de femme. Le pénal, c'est pas du vrai droit. Tu vas gâcher tes capacités, etc. Enfin.
Puis un problème financier aussi, c'est-à-dire que c'est ingrat, c'est un métier ingrat, et par rapport au droit des affaires, Stéphane Navassel ne nous entend pas, mais c'est pas du tout la même chose.
Exactement. Mais en tout cas, moi. Et si on s'adresse aussi dans cette émission à un public de jeunes qui peuvent s'interroger sur, en tout cas, la morale que je tire de mon histoire, c'est pas forcément qu'il faut être avocat pénaliste, mais qu'en tout cas, si on a un rêve d'enfant, il faut vraiment se battre jusqu'au bout pour y aller, exercer le métier dont on rêve, parce que c'est quand même ce pourquoi on se lève tous les matins. Et moi, il n'y a pas un matin où je me lève en me disant j'ai pas un métier qui me plaît, et je me sens tellement privilégiée de pouvoir exercer un métier qui pour moi est un métier extraordinaire, vraiment un métier de rêve. Et il n'y a pas une seule fois où je regarde un autre métier en me disant ça doit quand même être mieux qu'avocat, mais parce que j'avais ça en moi. Et en effet, quand on se lève à la cour d'assises ou même devant le tribunal, qu'on a sa robe, qu'on est encore la plupart du temps dans ces vieux palais. C'est vrai qu'il y a tout ça aussi qui participe de la mythologie. Oui, il se passe quelque chose, pour moi, d'assez extraordinaire. Mais il y a des avocats qui ne voient pas du tout le métier comme ça, qui détestent prendre la parole en public, qui ne sont pas faits pour ça, mais qui pour autant sont d'excellents avocats dans ce qu'ils font.
Stéphane de Navassel, vous ne vous levez pas souvent en cour d'assises, comme vous le disiez, mais ça vous arrive de remettre la robe. Vous regrettez pas ce choix de pratiquer le barreau, et un type de barreau qui est le barreau des affaires ?
Question difficile. Alors d'abord, Julien Koski a raison, il ne faut pas écouter les Cassandres. Si on s'adresse à des candidats potentiels à la profession, c'est 100 fois on m'a dit que je me trompais et que j'avais tort. Et finalement, il faut s'écouter un peu soi-même et ce qu'on a envie de faire. Sur les regrets, j'ai pas de regrets, mais je me remets en question en permanence. En fait, quand vous m'avez demandé de réfléchir à une chanson, et je suis tombé sur Toxic parce que c'est sur une interprétation de Yael Naïm, ça n'a absolument rien à voir avec celle de Britney Spears. Et en revanche, on a une addiction dans les deux cas. Et la métier d'avocat, pour moi, c'est vraiment ça. C'est absolument éreintant, absolument épuisant. Il se passe pas une semaine où je me dis pas, fais autre chose, fais-le différemment, fais-en moins, t'es épuisé. Et en même temps, c'est ça qui fait que c'est génial. Donc c'est une addiction, c'est un love-hate relationship, comme disent les Américains. Et il faut une angoisse, je crois, pour être un bon avocat. Si vous n'êtes pas angoissé, vous vous en fichez finalement, c'est pas bien grave.
Je vois Julien,
c'est une torture.
Qui hoche, qui opine,
oui, parce
chef.
On me demande souvent, alors, quelle est la qualité qu'il faut avoir pour être un bon avocat pénaliste. Et je pense qu'être angoissé, qui n'est pas forcément une qualité à la base, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'avoir presque un toc qui fait que plusieurs fois par jour, où vous replongez dans votre code pénal et de procédure pénale pour aller vérifier l'exactitude du libellé d'un article, une jurisprudence, etc. Si vous n'avez pas toujours peur de vous tromper, d'avoir oublié un nouveau texte, quelque chose, c'est sûr que vous ne pouvez pas y arriver. Il faut avoir cette tension et être capable de la gérer. Et moi, j'ai peut-être moins cette relation amour-haine que Stéphane à mon métier, qui est, là, pour le coup, est plus d'amour, pour revenir au début. En revanche, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de me dire « Mais pourquoi tu t'infliges ça ?» C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se met dans des états, justement, avant d'aller à un procès, avant de prendre la parole, avant de plaider, de stress, parce qu'on porte la responsabilité de l'avenir de quelqu'un. Quand vous défendez un jeune homme qui est en cours... 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, enfin, vous avez une responsabilité qui est énorme pour l'ensemble de sa vie. Alors, vous n'êtes quand même pas médecin, c'est-à-dire qu'il ne va pas mourir demain. Justement, la peine de mort, c'est terminé depuis un bail maintenant. Mais vous avez quand même son destin et beaucoup de choses qui vont le définir entre vos mains. Et ça, c'est sûr que parfois, on se remet en question de se dire, mais pourquoi est-ce que je me suis infligé une telle responsabilité ?
Mais Stéphane de Navacelle, vous êtes passé des États-Unis en France et puis aussi vous avez créé votre cabinet. On n'a pas beaucoup parlé de cette dimension-là, du travail collectif, de participer à une aventure aussi, à un travail de groupe. S'il fallait, ça sera ma dernière question, s'il fallait donner des raisons aux auditeurs qui nous écoutent et qui cherchent leur avenir, vous leur diriez quoi concernant la profession d'avocat ?
Tournez-vous vers votre voisin, Julien Koski, et vous parliez de la buvette du palais. Oui. En fait, comment est-ce qu'on tient ? Comment est-ce que ça marche ? À cause des confrères à côté de vous, à cause de l'équipe que vous êtes, Julien Koski, au cabinet Temim, mon équipe chez moi, vous avez ces liens-là, et c'est qui sont des vases communicants. Il y en a un qui est pas bien, qui trébuche, c'est l'autre qui prend tout de suite, et c'est comme ça que finalement qu'on tient. Enfin, c'est comme ça que moi je tiens. Voilà.
Julien Minkowski, oui, un travail d'équipe.
Ouais, un travail d'équipe. Moi, quand j'ai commencé chez Hervé Temim, on était 3 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 5 associés, 15 collaborateurs, et surtout avec l'époque que nous vivons aujourd'hui, cette pandémie qui nous atteint tous, on voit justement l'importance de la solidarité, du travail d'équipe, et le fait justement d'avoir des gens qui aiment leur métier, qui sont heureux. Je crois que c'est le cas de nos collaborateurs. C'est fondamental pour pouvoir continuer.
Eh bien, j'espère que vous aurez communiqué votre enthousiasme pour cette profession à nos auditeurs. Merci beaucoup, Julien Minkowski. Merci, Stéphane de Navacelle.
Merci, Antoine Garapon.
Esprit de justice, Julien Minkowski, Stéphane de Navacelle, Michael Simon, Jordan Fuentes, Sandrine Chaperon, Jeanne Delcroix, Léa Kamleun-Fosso, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et dans quelques instants, vous retrouverez Olivia Gisbert pour En français dans le texte. À bientôt.